Philosophie première par le Père Philippe à Saint-Judas, le 26 juin 90.
N'y a plus que quelques cours. Alors nous allons, je vous l'avais dit la semaine dernière, centrer ces quelques cours sur la philosophie première. Théologie naturelle et la critique. Au point de vue philosophie première, nous avions vu la dernière fois toute la complexité de la personne humaine, ce comment ultime. Plan métaphysique. Cette expérience du je suis. Et ceci est, liant toujours les deux, nous avions vu comment se poser à nous ces diverses finalités. Notre âme spirituelle peut se déterminer, peut découvrir plus exactement la finalité de l'amour d'amitié, la finalité de la recherche de la vérité, la finalité de la transformation. Je crois qu'on doit se poser avec beaucoup de netteté, beaucoup de force, l'harmonie qui peut exister entre ces diverses finalités. Parce que c'est précisément la diversité de l'ordre qu'on mettra dans ces finalités qui manifestera diverses modalités, diverses manières de voir la personne humaine. Et on doit se poser si cette diversité est légitime au plan philosophique. Donc je crois que la première chose qu'on doit faire, c'est de voir si ces finalités sont toutes de vraies finalités humaines. Personne implique ce qu'il y a d'ultime dans l'être, dans la réalisation de l'être, dans l'étant humain. Autrement dit, l'amour d'amitié est vraiment une fin. Même si cette fin absolu, puisque l'ami qu'on a choisi, qu'on aime, peut mourir, peut disparaître. Mon amour pour lui n'est pas suffisant pour le maintenir en vie. Suffisamment fort, il devrait prévenir tous ces aspects-là. Il peut tomber malade. Donc, mon amitié reste intentionnelle. Elle touche la substance de l'ami. C'est vraiment l'ami que j'aime. Mais ma manière de l'aimer demeure intentionnelle. Si ma manière de l'aimer était parfaitement parfaitement réaliste. C'est-à-dire, puisque j'atteins sa substance, puisque j'atteins sa personne, je devrais l'atteindre d'une manière substantielle. Or, je l'atteins dans une opération d'amour, de choix, qui demeure intentionnelle. C'est ce qui explique que mon amour pour lui ne le met pas au-delà de la contingence. Il demeure contingent, comme moi-même, je le suis. Parce que nous avions vu qu'à cause du corps, je suis partie de l'univers. Et à cause de son corps, mon ami est partie de l'univers. Et je ne peux pas le mettre au-delà de l'univers. Puisque, faisant partie de l'univers, je suis dépendant de l'univers et je suis dans la précarité de l'univers. Donc dans ce devenir de l'univers. Et mon amour pour lui, mon amitié pour lui, gardant ce mode intentionnel, ne peut pas le garantir. Le mettre au-delà de cette précarité ne peut pas le garantir de toutes les attaques du milieu dans lequel il se trouve. Et je crois qu'il faut bien saisir que cet amour d'amitié a quelque chose de très grand et c'est vraiment une finalité, puisqu'il atteint une personne. Il atteint la personne de l'autre. Il atteint l'autre comme personne. Mais il l'atteint sous un mode qui n'est pas absolu. Et c'est là où je vois bien qu'au sens strict, vous voyez, il n'y a pas de métaphysique de l'amour. Parce que si l'amour que j'ai pour mon ami substantiel quant à sa finalité, mais non substantiel quant à sa manière d'exister. L'amour d'amitié demeure toujours entelekeia, c'est-à-dire opération vers, tendance vers, mais n'est pas au sens propre energeia, acte et acte substantiel. Mais c'est très important ceci pour tout ce qu'on dira ensuite par rapport à la théologie naturelle. C'est de comprendre qu'il y a à l'intérieur de cette finalité qui donne la signification profonde à ma vie. La première signification de ma vie est donnée dans l'amour d'amitié. Donc, la signification première de la personne humaine est donnée dans l'amour d'amitié. Mais cette signification n'est pas absolue. Elle demeure intentionnelle. Et donc, par rapport à la finalité, c'est très important. Oui, et ça fait peut-être comprendre ce que Don Scott dira. Et que la scolastique thomiste reprendra, en oubliant que c'est Don Scott qui dit ça, contamination qui s'est faite là, en disant que la finalité demeure métaphorique. C'est Don Scott qui dit ça. Autrement dit, il ne reconnaît pas que la cause finale, cause des causes, s'enracine dans l'être. Pour Don Scott, la finalité est métaphorique. Oui, comme un peu, nous le dirions, pour la causalité exemplaire. La causalité exemplaire est métaphorique, puisqu'elle repose sur l'idée, sur l'idéa. Ton Scott dit que la causalité finale est métaphorique. Voyez pourquoi? À cause de ce mode intentionnel. Elle n'est pas parfaitement dans le réalisme de l'être. Elle a un mode qui est intentionnel. Et quelqu'un comme Jean de Saint-Thomas, donc, qui est dans la grande tradition thomiste, et dans la grande tradition de la scolastique thomiste, c'est peut-être le plus grand dans la scolastique thomiste, dit qu'il y a quelque chose de métaphorique dans la causalité exemplaire, dans la causalité finale. Alors, je crois qu'il ne faut pas employer ce terme métaphorique. Il faut tout simplement dire que la causalité finale, pour nous, au niveau humain, demeure imparfaite dans l'amour d'amitié. Ce qui montre que l'anthropologie ne peut jamais remplacer la métaphysique. Si, de fait, ma causalité finale dans l'amour d'amitié, le vécu de l'amitié, rejoignait l'être, l'anthropologie serait adéquate à la métaphysique. Et c'est là où on saisit comment l'anthropologie demeurera toujours dans ma connaissance que j'ai de l'homme, de l'ami, quelque chose qui restera soumis à la philosophie première. Autrement dit, seule la découverte de l'être en acte fonde la finalité dans son réalisme ultime. Tandis que l'amour d'amitié qui me fait comprendre la manière dont je peux vivre de cette finalité, le pose, la manière dont je vis de cette finalité, demeure imparfaite parce qu'elle garde un mode intentionnel. Je crois que ça c'est très important dans cette étude de la personne. Parce que c'est là où on voit que la personne n'est pas ce qu'il y a d'ultime dans ma connaissance métaphysique. Elle est ultime dans ma manière de concevoir la réalité existentielle. Mais l'aspect existentiel, c'est-à-dire l'expérience que j'ai du je suis, n'est jamais adéquate à ceci. Autrement dit, je ne peux pas dire ceci. Le je suis est parfaitement saisi dans l'ami. Je suis l'ami de mon ami. C'est là où c'est le mieux je suis. Autrement dit, l'anthropologie touche là son sommet. C'est très important de comprendre que c'est du côté de la finalité et du côté affectif, au très grand sens. Du côté volontaire, puisque l'ami, c'est celui que j'ai choisi comme ami. Bien, le « je suis l'ami de mon ami » n'est jamais adéquat à « ceci est ». « Ceci est » a toujours quelque chose qui transcende l'ami. Si le « ceci est » était égal à « je suis », l'anthropologie et la philosophie première seraient adéquates. Dit, si vous voulez, pour toujours mieux comprendre, le pos au niveau métaphysique, le comment au niveau métaphysique n'est jamais adéquat à ceci est. Au quid, quid sit. Il y a toujours toujours une adéquation. Ça, je crois que c'est très très important. Vous voyez, c'est là où, vous voyez, on montrerait l'erreur au niveau théologique de ce que dit Karl Rahner. Il faut aller jusque-là. Autrement, vous ne montrez pas du tout son erreur. Quand Karl Rahner dit la modernité de la théologie, c'est de remplacer la métaphysique par l'anthropologie. Il le dit. Hein. Et il ne fait pas la critique, il trouve que c'est très bien. Alors, toutes les conséquences, c'est du reste comme ça que Kuhn a dit ouvertement, quand Rahner a dit qu'il n'était pas d'accord avec Kuhn, Kuhn lui a répondu, ça a été publié, Kuhn lui a répondu, mais je comprends pas. Je pousse ce que vous avez posé comme principe nouveau jusqu'au bout. Alors, je ne comprends pas, vous n'êtes pas d'accord. C'est vous qui m'avez mis sur cette piste. Et je pousse votre piste jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'une remplace la métaphysique par l'anthropologie et pousse l'anthropologie jusqu'au bout. La théologie de Kuhn, c'est la théologie du pose, du comment. Poussée à l'extrême du vécu. Alors, la métaphysique est résorbée dans l'anthropologie. Et si la métaphysique est résorbée dans l'anthropologie, on aboutit justement à une métaphysique qui ne peut plus parler de Dieu. Au sens de la transcendance de Dieu. Oui. Je reviens à ce que ce vieux philosophe grec disait, si l'éléphant faisait une théologie, il dirait que Dieu est le super éléphant. On resterait dans l'ordre du pose. Dire que Dieu est le surhomme, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas le surhomme. Dieu est l'être premier, l'acte pur. C'est pas du tout la même chose. Oui. Alors, c'est important pour nous, au point de vue philosophique, de bien saisir. Et après avoir vu comment on assume toute l'analyse métaphysique dans le je suis, il faut cependant reconnaître que jamais mon étude du pos, c'est-à-dire de la personne humaine, remplacera la métaphysique. Jamais. Le ceci est, objectivement, permettra une analyse plus poussée que le pose de la personne. Il y a une tentation, c'est pour ça que je souligne, il y a une tentation, et je ne voudrais pas que vous tombiez dedans. Je réintroduis, vous voyez, comprenez bien, on réintroduit le problème de la personne en métaphysique. Mais introduire la personne en métaphysique, ce n'est pas dire la métaphysique, c'est la métaphysique de la personne. Non. La métaphysique, c'est la métaphysique de l'être. Mais la métaphysique de l'être permet une métaphysique de la personne. Je réintroduis par là, en métaphysique, une métaphysique de l'amour. Et la métaphysique de l'amour n'est pas et ne sera jamais la métaphysique de l'être. Parce que l'amour, c'est toujours un pos entelecheia, d'une manière d'être. Ce n'est pas l'être. C'est du vécu, l'amour. Vous ne pouvez jamais dire que l'amour est au-delà du vécu, au point de vue humain. Vous pouvez le dire dans l'ordre surnaturel. Dans l'ordre divin, je peux dire que la charité est au-delà du vécu. Heureusement pour nous. Dieu travaille notre cœur, même quand on n'en a pas conscience. C'est tout le grand mystère de l'oraison. C'est pas. Vous ne pouvez pas dire que votre oraison égale la conscience que vous avez de votre oraison. Heureusement, il n'y aurait pas grand-chose. Parce que justement, Dieu, l'Esprit Saint, travaille au-delà. C'est pour ça que Saint-François peut dire, Saint-François de Sales, avec son style merveilleux, n'est-ce pas, peut dire que faites, veillez partout ailleurs. Veillez partout ailleurs, c'est le vécu. C'est le vécu d'amitié. Dormir auprès de Jésus, c'est la raison. Alors là, on voit comment il a le dépassement du vécu. Et au plan métaphysique, c'est extrêmement important. Parce que par là, je légitime ça, vous voyez. Si je ne vois pas ça, je ne peux pas. J'aurai la métaphysique de Kuhn. Et la métaphysique de Kuhn, c'est on ramène les vertus théologales au vécu. C'est triste. Ce ne sont plus les vertus théologales, c'est les vertus de Kuhn. Parce qu'à la place de vertu, il met lui. Il met son moi à la place. Mais je crois en moi, j'espère en moi, je m'aime. Là, à ce moment-là, vous êtes en présence de quelque chose de tout à fait nouveau. C'est la nouvelle théologie. Et, vous voyez, je le dis en blaguant, mais si vous regardez attentivement toute cette nouvelle théologie, vous voyez que c'est ça. C'est l'anthropologie qui remplace ceci. Parce que c'est bien évident, vous voyez, si le vécu égalait ceci est, mais je n'hésiterai pas une seconde de faire la métaphysique du vécu. C'est bien plus intéressant. C'est bien plus facile. Vous voyez, je reste dans le descriptif. Pas besoin d'analyse, plus besoin d'induction. C'est merveilleux. Tout le monde peut faire la métaphysique du vécu. Tandis que la métaphysique du ceci est, avec toute l'analyse des principes propres de l'être, ça c'est beaucoup plus difficile. Mais donc, c'est la première chose qu'on doit faire quand on essaie de réfléchir, en dernier lieu après toute l'analyse que nous avons faite, comprendre que c'est très vrai, l'amour d'amitié finalise l'homme. J'allais dire, l'amour d'amitié n'est pas l'acte pur de l'être. Donc, dans l'amour d'amitié, je découvre le sens profond de mon être, de ma personne, je veux dire, donc de mon être existentiel ou existential. Deuxièmement, il y a aussi la recherche de la vérité. Et vous voyez pourquoi la recherche de la vérité est absolument nécessaire. C'est pas facultatif. La personne humaine n'est personne humaine que si elle recherche la vérité. Parce que s'il n'y a pas cette recherche de la vérité, très vite, j'identifierai le pos et le ceci. C'est parce que il y a la fêlure métaphysique. C'est parce qu'il y a la fêlure métaphysique entre le je suis et ceci est. Donc, c'est parce qu'il y a cette fêlure qu'il est nécessaire d'impliquer la recherche de la vérité. La finalité de l'ami ne suffit pas à comprendre ce qu'est la personne humaine. Ça explique des quantités de choses, hein, au point de vue humain. Ça explique toutes les dégradations de la personne humaine. Quand on dit « j'aime mon ami », nous nous entendons ensemble, et puisque nous sommes d'accord, nous sommes dans la vérité. C'est l'euthanasie, ça. La vérité de l'euthanasie, ce que je vous avais dit une fois. Dans ce petit film, on montre un brave vieux ménage, n'est-ce pas? Ils ont vécu 50 ans ensemble. Ben, il faut qu'ils meurent ensemble. Alors la brave épouse qui a 50 ans de mariage dit à son époux, mais je peux pas te laisser seul. Et l'autre répond, moi non plus. Donc, puisque qu'on peut mourir ensemble, mourir ensemble. Mais ça illustre comment, quand on croit que l'amour d'amitié est l'absolu, que de fait on se donne le droit de mourir ensemble. Parce qu'on ne voit pas que le ceci est, cette brave dame qui a 50 ans de mariage oublie, que ceci est n'est pas son je suis. Elle fait erreur là. Il y a quelque chose qui ne va plus. Si le je suis et le ceci est étaient adéquats, ils auraient le droit de dire ça. Mais j'ai dit ça exprès pour que vous compreniez que toutes les erreurs modernes reposent là-dessus. Il faut aller très loin dans cette recherche de la personne. Mais il faut maintenir qu'au-delà de ce pos métaphysique, de ce comment de l'être, de la personne, reste toujours l'analyse métaphysique de ceci. Mais il y a un danger, justement, c'est que le « je suis » le vécu de ma personne est quelque chose de tellement fort au point de vue subjectif qu'il risque de mettre à l'ombre ceci. Alors, parce que le « je suis » n'est pas adéquat au ceci, parce que l'amour d'amitié est bien ma fin, propre, personnelle, mais n'est qu'une fin imparfaite. Il y a donc une fêlure métaphysique jusque dans l'amour d'amitié. Et parce qu'il y a une fêlure métaphysique jusque dans l'amour d'amitié, il faut qu'il y ait cette recherche de la vérité pour que j'aie conscience de cette fêlure métaphysique. Et pour que ceci se redresse, se purifie. Alors, seconde finalité. Je justifie ça. C'est important. Il faut pouvoir le justifier. Enfin, pas seulement aligner une finalité, une seconde finalité. Non. Il faut comprendre pourquoi. L'être humain, la personne humaine, reste toujours dans la complexité. Et je ne peux pas me dire, moi, j'ai un ami parfait, j'ai un ami merveilleux. L'ami, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Autrement, c'est pas l'ami. J'ai un ami, on le choisirait au milieu de 100 000 personnes. J'ai un ami merveilleux, c'est suffisant. J'ai toute confiance en lui. Tout ce qu'il me dit être vrai, je le considère comme être vrai. Est-ce que c'est juste de dire ça? Non, je ne veux pas dire ça. L'amour d'amitié donne le sens de ma finalité, mais parce que cet amour d'amitié a un mode intentionnel, il y a une seconde finalité, le vrai, la recherche de la vérité. Il y aura toujours ça. Et je devrais toujours dire cette parole magnifique d'Aristote. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. C'est pas un principe, ça. C'est une constatation, mais qui montre que justement, Platon n'est pas la finalité d'Aristote. C'est désolant pour Platon, mais c'est très heureux pour Aristote. Platon n'est pas la finalité pour Aristote. Il y a la vérité. Mais Platon reste l'ami. La vérité ne supprime pas l'ami. Mais il dit, moi je recherche la vérité, donc j'ai pas d'ami. Ah non, pas le droit. Là vous oublierez que la finalité que vous avez dans l'ami a quelque chose d'unique. Que ne remplacera jamais cette recherche de la vérité. Au plan métaphysique. Alors c'est ça qu'on doit essayer maintenant de comprendre. Qu'est-ce que ça représente, cette seconde finalité pour ma personne? suite ici une distinction actuelle. La vérité, je la recherche de multiples manières. Il y a la vérité au niveau philosophique, la vérité au niveau mathématique et la vérité au niveau des sciences. Vous avez donc deux orientations. Est-ce que la vérité au niveau... Oui, je souligne toutes les fêlures métaphysiques. Est-ce que la recherche de la vérité au niveau mathématique fait partie de la structure de la personne humaine? Ça, c'est grave. Il y a des matheux ici. Hein. C'est très, très important de comprendre ça. Est-ce que la recherche de la vérité au niveau métaphysique fait partie essentielle, accidentelle, très bien, c'est sûr. D'être un grand matheux, ça, c'est quand même quelque chose. Au point de vue du pose, au point de vue du comment de la personne humaine. Est-ce que c'est essentiel? C'est ça qui m'intéresse ici. Est-ce que c'est essentiel dans la structure de la personne humaine? Eh bien non. C'est pas essentiel. Et toute la recherche des vérités scientifiques ne sont pas essentielles, ne font pas partie de la structure de la personne. Pourquoi? Tout simplement parce que les mathématiques n'atteignent pas la fin. Parce que les mathématiques n'atteignent pas ceci est. Le jugement d'existence est suspendu dans les mathématiques. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça que Husserl, qui est premièrement un matheux, Husserl a fait une thèse de mathématiques, il est docteur en mathématiques, hein, avant d'être philosophe. Il a prolongé les mathématiques en faisant une métamathématique. Et ça explique la phénoménologie. La mise entre parenthèses de ceci est. C'est très juste au niveau mathématique. Ce n'est plus juste au niveau philosophique. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut lire la thèse de Husserl, le point de vue mathématique, pour comprendre sa philosophie. Alors très peu de philosophes l'ont lu. Et même ils l'oublient. C'est un premier Husserl qu'ils oublient complètement. Alors que de fait, ça joue d'un conditionnement. Il quelquefois est plus qu'un conditionnement. Je crois qu'il détermine. Ça explique cette mise entre parenthèses. S'il y a une mise entre parenthèses de ceci est, une mise entre parenthèses de la fin pour ne regarder que le beau, je dois donc dire que la recherche de la vérité au niveau mathématique, au niveau des sciences, qui dépendent des mathématiques, n'est pas essentielle à la structure de la personne humaine. Tandis que la recherche de la vérité au niveau philosophique, qui regarde, qui tend vers un point de vue de sagesse, qui reste liée à ceci, donc à la réalité, est essentielle à la structure de la personne. Ça ne veut pas dire, hein, que je ne serai une personne humaine que si je suis philosophe. Faites attention, hein. C'est pas ça que je veux dire. Si je le suis, j'aurai une conscience plus aiguë de ce qu'est la personne humaine. Ça, oui. Mais je veux dire que la recherche de la vérité au niveau pratique et au niveau spéculatif est nécessaire à la structure de la personne humaine. L'homme ne peut pas négliger la recherche de la vérité. C'est ça que ça veut dire. Il n'a pas le droit. Deuxième point, il n'y a qu'une seule chose qui compte, l'amour d'amitié. Le reste, ça m'est égal. On n'a pas le droit de dire ça. L'homme ne Il y a en lui, dans sa personne humaine, un appétit de vérité qui dépasse le point de vue de l'amour d'amitié. Et vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a cette fêlure du mode intentionnel dans l'amour d'amitié. Alors, il faut qu'il y ait tout le temps dans l'homme une recherche de vérité qui dépasse le point de vue de l'amour d'amitié. C'est difficile à faire comprendre, ça, aujourd'hui. C'est très, très difficile. Je crois que c'est là l'erreur fondamentale de la fémologie qui voudrait remplacer la métaphysique. L'erreur fondamentale de l'anthropologie qui voudrait remplacer la métaphysique. Parce qu'alors on met l'amour d'amitié, le vécu, au-delà du soucié. Tandis qu'au contraire, cette recherche de la vérité montre que le soucié, la recherche de la réalité, de la vérité, va toujours être première et s'impose toujours à moi comme quelque chose de premier. Mais encore une fois, qui ne supprime absolument pas le réalisme de l'amour d'amitié. Au contraire, qui montrera que c'est nécessaire pour moi. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette recherche de la vérité? Cette recherche de la vérité représente, dans le pouls, dans le comment de la personne humaine, ce respect acceptez que la Terre existe avant vous, vous êtes obligé d'accepter le primat de l'affirmation sur la négation. Vous ne pouvez pas considérer que la négation est première. Parce que la négation, c'est vous. C'est l'être de raison que vous êtes capable de former. La négation. La négation n'a pas existé avant vous. Pour vous. Tandis que l'univers a existé avant. Et donc vous reconnaissez qu'il existe. Non seulement l'univers, mais l'ami. Il a existé avant qu'il soit votre ami. C'est très ennuyeux, ça. C'est très très ennuyeux, ça. Il a existé avant que vous soyez son ami. Donc vous devez le respecter. Comme une réalité qui a une autonomie avant. Et vous devez donc reconnaître le primat de l'affirmation sur la négation. Et là, vous comprenez que la recherche de la vérité s'impose comme quelque chose d'absolument fondamental, qui rectifie tout le temps la tentation de considérer que le vécu est premier. C'est la grande tentation du monde d'aujourd'hui. Et vous verrez que le monde périra à cause de ça. Ça va très loin. Si le vécu est premier, le jour où l'homme est capable de détruire l'univers, et qu'il a le pouvoir de le détruire, et qu'il voit que quelqu'un passe avant lui, il risque, dans une sacrée jalousie, de supprimer l'univers. Vous voyez, je crois que quelqu'un comme Hitler, s'il avait eu le pouvoir de détruire l'univers au moment où il a vu qu'il était obligé de passer en second, tant qu'il était battu, aurait fait sauter l'univers. le primat de la négation supprime le respect de l'univers et de l'homme. C'est, j'allais presque dire, c'est comme le nouveau péché métaphysique de mettre la négation avant l'affirmation. Parce que ça aboutit à faire qu'on ne respecte plus rien, sauf nous-mêmes. Je crois que là, il y a quelque chose de très important pour nous à découvrir au plan de la personne. De montrer que ces deux finalités sont absolument nécessaires pour la structure de la personne humaine. Vous ne pouvez pas être une personne humaine vraie uniquement par l'amour d'amitié. L'amour d'amitié va impliquer quelque chose de plus fondamental, qui est justement cette recherche de la vérité. Et cette recherche de la vérité au niveau philosophique, et donc de philosophie première. Et ça, c'est très curieux. Ça montre que la recherche de la vérité est naturelle. C'est pas conventionnel. Ainsi que l'amour d'amitié. C'est les deux finalités qui s'imposent à moi. Et toutes les deux sont partielles. C'est ce qu'on verra la fois prochaine, demain. Comment cette recherche de la vérité n'est pas absolue. Elle est partielle. Si elle était absolue, elle éclipserait l'autre. Moi, je recherche la vérité, pas besoin d'amis. Je méprise l'amitié souverainement parce que je recherche la vérité. Vous voyez l'orgueil, là. Je ne peux pas dire ça parce que ma recherche de la vérité n'est pas absolue. Elle est imparfaite. Et voyez pourquoi. Elle implique une abstraction. Jamais l'universel sera adéquat au singulier. Hein, vous voyez là, l'orgueil d'une dialectique qui veut remplacer l'amour d'amitié. L'orgueil de la philosophie hegelienne qui voudrait que la dialectique soit tout. Alors il n'y a plus d'amitié. Il n'y a plus d'amitié dans la dialectique hegelienne. Impossible. Mais alors, c'est ça qui, je crois, est très important pour nous, c'est de saisir qu'il y a nécessairement, dans la structure de la personne humaine, ces deux finalités. La finalité de l'amour d'amitié, la finalité de la vérité. Et que les deux se complètent. Alors, c'est la complémentarité des deux. Très important d'avoir pour saisir de l'intérieur la structure.